Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
Au sommaire de ce magazine, le tsunami. À l'approche du premier anniversaire du dramatique raz-de-marée du 26 décembre 2004, l'heure est au bilan. Qu'a-t-on fait des sommes faramineuses collectées dans un élan de générosité sans précédent, alors que beaucoup de victimes attendent encore qu'on leur vienne en aide? Venir en aide, c'est le leitmotiv d'Ashoka, une association à but non lucratif vouée à la cause des entrepreneurs sociaux, des individus qui ont des idées à la fois innovantes et pragmatiques pour résoudre des problèmes sociaux majeurs. Venir en aide toujours, cela fait maintenant 20 ans que les Restos du Cœur distribuent des millions de colis et de repas chauds. On en parle surtout l'hiver, lorsque l'on meurt sur les trottoirs de nos grandes villes. Les dépêches d'agences d'information ont commencé ces jours-ci à dresser l'inventaire du grand bazar humanitaire qui s'est mis en branle, souvenez-vous, après le tsunami. Navrant. Au hasard, vous pouvez lire que près de 70% de l'aide octroyée par le Japon aux pays frappés par le raz-de-marée meurtrier n'a pas encore été utilisée, ou encore qu'en Indonésie, moins d'un quart des 120 000 maisons planifiées ont été construites dans les régions dévastées. Richard Verli, journaliste au service étranger du quotidien suisse Le Temps et collaborateur de longue date de Radio Vatican, connaît bien ces pays. Il s'est rendu sur place et dans un livre fait le bilan, car la vérité est toujours bonne à dire, même en matière humanitaire.
Un an après, la reconstruction dans les pays touchés par le tsunami n'est pas à la hauteur de l'extraordinaire élan de générosité qui l'a déclenché. Il faut savoir qu'on parle au niveau mondial, tout secteur confondu, c'est-à-dire aide publique ou aide privée, de 11 à 13 milliards de dollars de dons. C'est donc la catastrophe la plus financée de l'histoire de l'humanitaire. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que trop souvent, et on le voit bien ces jours-ci, notamment avec le Pakistan, les catastrophes naturelles peinent à attirer la générosité du public. Et souvent, les États qui promettent de l'argent, notamment aux Nations Unies lors des conférences de donateurs, ne tiennent pas leurs promesses. Et on se retrouve avec des financements qui atteignent, au bout du compte, un an après, entre 30 et 60% de l'argent qui avait été promis. Donc ce n'est pas le cas avec le tsunami, donc ça il faut le dire. La catastrophe a non seulement attiré un élan de générosité extraordinaire, mais elle a en plus fait que les promesses ont été tenues et que l'argent promis a été débloqué. Alors de ce point de vue-là, et c'est la raison pour laquelle je me suis penché sur cette catastrophe de près, je crois que on peut être sévère. On peut être sévère parce que bien précisément cet argent est là. Pourquoi n'a-t-il pas été mieux utilisé? C'est toute la question. Pourquoi la reconstruction n'est pas à la hauteur? Alors là, je pense qu'il y a plusieurs éléments en débat. Il y a toujours, et c'est très important de le dire, un élément qui tient aux circonstances. Bien évidemment, les gouvernements locaux ont eu leurs problèmes, les populations locales aussi. Il y a beaucoup de difficultés d'ordre juridique, législatif pour la reconstruction qui se sont posées. Mais au-delà, je crois que c'est poser la question tout simplement de l'embouteillage humanitaire. Le fait que l'aide soit si massive, le fait que tant d'organisations non gouvernementales se soient mobilisées, a créé un embouteillage qui a été problématique. Il faut avoir aujourd'hui le courage de le dire.
Alors il y a un an, on se disait quand même que tout cela prendrait du temps quand même, vu l'ampleur de la catastrophe. Alors n'est-il pas trop tôt justement pour tirer des bilans?
Moi je ne pense pas. Un an, c'est quand même un délai assez long. On ne parle pas d'un habitat, l'habitat détruit, ce ne sont pas des immeubles, ce ne sont pas des gratte-ciels. On ne parle pas d'une ville qui aurait été submergée. On parle d'un habitat relativement précaire, le long du littoral des zones concernées, et on parle, en ce qui concerne la reconstruction, d'habitats relativement modiques, c'est-à-dire des constructions en planches, avec des toits de tôle, etc. Donc, je pense que en un an, beaucoup plus aurait pu être fait. Parce que on estime en général que la période d'urgence d'une catastrophe est entre 1 et 3 mois. Dans le cas du tsunami, les urgentistes professionnels, comme par exemple Médecins Sans Frontières, ont très vite dit que la période d'urgence était passée, pour la bonne et simple raison que c'est une catastrophe qui a fait énormément de morts et de disparus, mais qui a fait peu de blessés. Donc la convalescence humanitaire a été relativement courte. La meilleure preuve, c'est que dans la plupart des pays, Les secours purement médicaux ont quitté la zone environ un mois après, trois semaines à un mois après. Donc, en réalité, la reconstruction a commencé au mois de février-mars 2005. Février-mars 2005, nous sommes maintenant neuf mois après. Et donc, tirer un bilan me paraît tout à fait non seulement possible, mais nécessaire.
Est-ce à dire finalement que peu d'organisations quelque part sont capables de relever le vrai défi de l'après-catastrophe, à savoir celui du développement ?
Ça, je pense que oui, c'est une des questions qui est posée. Ce qui a fait l'originalité d'ailleurs un peu dramatique, complexe du tsunami, c'est que la générosité du public, encore une fois extraordinaire et unique, a été vers beaucoup d'organisations, un foisonnement d'organisations humanitaires, qui toutes n'avaient pas les compétences pour le travail nécessaire. Le tsunami, c'est une catastrophe qui a fait, encore une fois, énormément de victimes, qui a fait peu de blessés, qui a détruit un littoral sur une bande de terre, disons, oscillant entre 100 mètres et 8 ou 9 kilomètres dans le pire des cas. C'est une catastrophe qui n'a pas détruit les infrastructures des pays concernés. Ce n'est pas une guerre. La société des pays qui ont été touchés par le tsunami n'a pas été mise à genoux. Donc, de quoi ces populations avaient besoin ? Essentiellement, d'une aide ciblée, d'une aide proportionnée, d'une aide de spécialistes. Or, l'argent n'a pas été dans la caisse de ces organisations-là. L'argent a été éparpillé entre beaucoup d'organisations, notamment spécialisées dans les secours médicaux ou dans les actions, je dirais, d'ordre socio-économique, qui n'étaient pas nécessaires ou en tout cas qui n'étaient pas prioritaires. On a donc eu, moi je l'affirme, une déperdition de l'aide. Il aurait sans doute mieux fallu, mais il est toujours facile après coup de raisonner, il aurait sans doute mieux valu que cet argent soit mobilisé par des consortiums d'organisations humanitaires qui auraient pu déployer leurs équipes de spécialistes, notamment en matière d'architecture, de reconstruction, plutôt que d'avoir, comme c'était encore le cas à Aceh en Indonésie il y a seulement trois mois, jusqu'à 160 organisations humanitaires étrangères présentes sur le terrain. C'était bien évidemment beaucoup trop parce que, ne l'oublions pas, les pays touchés n'ont pas une capacité d'absorption énorme. Et vous embouteillez très vite des ports, vous embouteillez très vite des routes qui ne sont pas des autoroutes, vous embouteillez très vite une administration qui est relativement faible, peu structurée. Donc à partir du moment où vous créez un embouteillage, eh bien vous retardez l'aide et malgré tout l'argent que vous avez en caisse, eh bien, vous ne faites pas du bien sur le terrain.
Alors, vous avez parcouru, pour réaliser ce livre et l'écrire, donc les rivages dévastés de l'océan Indien, mais aussi les quartiers généraux de l'aide, que ce soit Genève, Paris, Bruxelles ou encore New York. Alors, tout d'abord, pour les pays concernés, vous venez d'évoquer l'Indonésie, mais vous êtes allé aussi, je suppose, en Thaïlande, au Sri Lanka et peut-être en Inde, où la situation, finalement, est la plus déplorable pour l'après-tsunami.
Je dirais que, incontestablement, l'endroit le plus problématique, c'est l'Indonésie. Si l'on parle de l'extension des dommages, si l'on parle de l'ampleur des dégâts, l'Indonésie, la province d'Aceh, qui est à l'extrême nord de l'île de Sumatra, a été la plus touchée. Et il est clair que c'est là-bas que la situation humaine, un an après, est encore la plus dramatique. Ce n'est pour autant pas là-bas, à mon avis, que le gâchis a été le plus grand. Je pense que ce qui s'est passé au Sri Lanka, de ce point de vue-là, est plus symptomatique. Ce qui s'est passé au Sri Lanka, c'est que les organisations humanitaires étrangères, qui sont venues avec beaucoup d'argent, eh bien, n'ont pas été capables d'obtenir des autorités sri-lankaises la carte blanche nécessaire à un vrai plan de reconstruction. Un détail, par exemple. Le long du littoral sri-lankais, le gouvernement a décrété, deux mois après la catastrophe, une zone de protection de 200 mètres, ce qui veut dire concrètement que beaucoup des gens qui avaient perdu leur maison ne pouvaient pas reconstruire à l'emplacement ancien de leur demeure à cause de cette zone de 200 mètres. Eh bien, il a fallu attendre un an pour que le gouvernement sri-lankais lève ce projet de bouclier de 200 mètres et décide d'accepter que les gens reviennent près des plages, considérant que la meilleure manière de prévenir des dommages en cas de tsunami, ce n'est pas d'éloigner les gens de 200 mètres des plages, mais c'est de faire en sorte qu'ils soient prévenus. Eh bien, ce genre de décision aurait dû être obtenue plus tôt. Donc, dans le cas du Sri Lanka, je dirais, la partie politique jouée par les organisations humanitaires étrangères, à mon avis, a été mal jouée. Par contre, là où je vois quand même de l'espoir, je lance dans le livre un certain nombre de pistes et je constate au fur et à mesure de mes contacts qu'elles sont reprises. Par exemple, l'aide directe. Beaucoup d'ONG ont reçu des dizaines de millions d'euros. Cet argent aujourd'hui sommeille dans les banques, ce qui n'est pas un crime. L'argent est placé à 2 ou 3% de manière tout à fait correcte et éthique. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que peut-on accepter, alors qu'on a en banque des dizaines de millions d'euros, que sur le terrain, les gens pour qui cet argent est destiné n'aient encore rien et doivent encore patienter 1 ou 2 ans avant d'avoir leur maison? Et moi, je dis non.
Et c'est là, finalement, que des projets tout à fait circonscrits, parfois même de privés qui avaient été touchés dans leur famille par le tsunami, ont été plus rentables, plus bénéfiques aux populations locales avec une aide directe, et où là finalement de travailler en solo en se préoccupant des besoins tout à fait primaires des gens sur un village parfois seulement ou un quartier ont donné des résultats tout à fait positifs.
Absolument. Je crois qu'il faut que le monde humanitaire, et je pense que le tsunami va servir à cela, que le monde humanitaire accepte de moduler son aide en fonction des besoins, en fonction du type de catastrophe auquel il a affaire. Aujourd'hui, trop souvent, l'aide humanitaire ne respecte pas les besoins, elle tient compte des dons. C'est parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on intervient. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est où notre présence est-elle nécessaire ? Et si nous décidons d'être présents, de quoi les gens ont-ils besoin? Aujourd'hui, je le répète, dans le cas du tsunami, au moins 50% des victimes ont avant tout besoin d'une aide maintenant, pour reprendre une vie normale avec un boulot, avec leurs enfants à l'école, etc. Il est nécessaire de faire ce pas de l'aide directe. Donc voilà un petit peu l'un des appels que je lance. La communauté humanitaire doit être capable de moduler son aide en fonction des circonstances.
Merci à Richard Verly, et comme la vérité est toujours bonne à dire, mais aussi à lire, je vous conseille son ouvrage « Tsunami, la vérité humanitaire » aux éditions du Jubilé. Ça vient de sortir chez vos libraires. Et parlons à présent d'une nouvelle manière de venir en aide par des projets sociaux d'entraide qui peuvent être viables économiquement. C'est le défi que s'est posé l'association internationale Ashoka, née en 1980. Le credo de son fondateur, Bill Drayton, « Il n'y a rien de plus puissant pour changer le monde qu'une idée radicalement nouvelle si elle est entre les mains d'un véritable entrepreneur ». Association à but non lucratif, Ashoka s'est ainsi vouée à la cause des entrepreneurs sociaux, des gens qu'elle déniche partout dans le monde. Ancien athlète de haut niveau, créateur et responsable pendant 5 ans de l'ONG Sports Sans Frontières, Arnaud Moureau est aujourd'hui le responsable Ashoka pour la France.
Ashoka, c'est une association qui a décidé d'identifier et de soutenir ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui vont mettre à un moment donné leur qualité entrepreneuriale évidente, leur vision, leur pragmatisme, leur ténacité au service d'un projet à vocation sociale. Et c'est ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux qui sont, dans le cadre d'Ashoka, des gens extrêmement innovants. La notion d'innovation sociale est pour Ashoka essentielle. Un projet qui ne serait pas innovant n'est pas un projet soutenu. Et vous aviez raison de le rappeler, ce qui fait la différence, c'est à la fois l'idée, mais c'est en même temps une espèce de binôme magique, une idée nouvelle dans les mains d'un entrepreneur. Et en fait, dans le monde de l'entreprise classique, entre guillemets, c'est comme ça que les plus grandes fortunes se sont faites, que les plus gros business se sont développés. Prenez le cas de Microsoft, de Google ou encore de eBay, c'est exactement ça. C'est un homme ou, dans le cas de Google, c'est 2 personnes, mais avec une idée géniale et puis des qualités entrepreneuriales évidentes qui ont su révolutionner tout un secteur. Mais c'est exactement ce qu'on va rechercher, même dans le domaine social. Des gens qui vont être capables d'amener à très très grande échelle des solutions nouvelles qui vont permettre soit d'éradiquer la pauvreté, soit de rendre la vue à des gens en Inde, soit d'avoir accès à l'électricité pour ce qui est du Brésil. On en a soutenu depuis 20 ans 1700. Comme ça, et c'est vrai qu'Ashoka est en ce sens un réseau vraiment unique.
Alors vous venez de citer le Brésil, où là c'est Fabio Rosa, je crois, qui a créé une technologie d'électrification à moindre coût.
Oui, bien sûr, Fabio est un ingénieur qui en fait s'est rendu compte que par le manque d'électricité dans les campagnes brésiliennes, énormément de jeunes avaient décidé de fuir la campagne et donc un exode rural extrêmement important s'en était suivi. Et puis, il s'est dit qu'il fallait prendre le problème à la racine. Et le problème, c'était notamment l'accès à l'électricité, qui était extrêmement coûteux à l'époque. Puis Fabio a décidé de réfléchir à comment amener une nouvelle façon d'acheminer l'électricité dans les maisons, les endroits les plus reculés. Il a trouvé en fait une nouvelle approche à la fois technologique et en même temps un modèle de développement assez étonnant qui a permis d'électrifier plus d' 1,5 million de foyers au cours des 10 dernières années. Et c'est un modèle qui vient d'être repris par le président Lula pour le développer sur l'ensemble du Brésil. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que bon nombre d'entre eux ont pu développer leur activité professionnelle, ont pu augmenter leurs revenus. Et donc on se rend compte, même si c'est assez difficile hein, de notre point de vue en Europe d'imaginer ce que serait un monde sans électricité, on se rend compte que simplement l'accès à l'énergie électrique, dans ces cas-là, peut vous permettre de, à la fois de vivre plus confortablement, mais en même temps de vous développer économiquement.
Notre magazine s'appelle Mondoscopie, et pour prendre un autre exemple de la variété d'idées nouvelles soutenues par Ashoka, partons en Inde, pourquoi pas, où plusieurs initiatives ont été soutenues, dont celle, je crois, des téléphones pour les enfants des rues.
Oui, en Inde, c'est Jeru Bilimoria qui a décidé, il y a à peu près 15 ans, de faire quelque chose pour la situation des enfants de la rue. Vous savez qu'en Inde, il y a des millions et des millions d'enfants qui vivent dans la rue, qui voyagent énormément, et puis il est toujours extrêmement difficile de les tracer et de savoir où ils sont, et surtout lorsqu'ils ont des gros problèmes, puisque ce sont des enfants qui voyagent, mais qui peuvent être violentés, qui peuvent être attaqués. Et donc il était important de trouver une façon de les pister, de pouvoir répondre à tout moment à leurs besoins et à leurs urgences. Et donc l'idée était extrêmement simple, quand on y pense après coup, on se dit mais c'est bien sûr, mais l'idée a tout simplement été pour Jeru de mettre en place un partenariat avec la Compagnie Nationale des Télécoms et de faire en sorte qu'on puisse composer de n'importe quelle cabine le numéro suivant, le 198, qui permette à ce moment-là de rediriger vers une association locale qui prend en charge l'appel et qui écoute l'enfant et qui essaye de savoir ce qui se passe et donc de déclencher, le cas échéant, une intervention sur le terrain. Et ce projet qui est né au début à l'échelle d'une ville, qui a commencé à se développer tranquillement, a pris un essor tout à fait phénoménal puisqu'aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'Inde qui est couverte, et puis c'est à peu près un peu plus d'un million et demi d'appels par an et 150 000 interventions terrain qui sont déclenchées. La particularité de ce projet-là, c'est que au-delà du fait qu'il est réplicable un petit peu partout dans le monde, à tel point qu'aujourd'hui, Jeru s'occupe en fait d'un réseau de 70 pays qui ont décidé d'utiliser cette technologie. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des enfants qui répondent aux enfants et non pas forcément des adultes. Et donc, ce sont des enfants qui sont formés avec des adultes, bien évidemment, derrière eux, mais qui vont prendre en charge l'appel, essayer de comprendre le problème dans lequel se trouve l'enfant qui appelle et s'il en est besoin, de déclencher une opération de terrain.
Est-ce qu'on peut dire dès lors qu'Ashoka, c'est tout le défi de trouver des gens géniaux à épauler, que ce soit économiquement ou même juridiquement ?
Écoutez, pour avoir vécu un peu cette traversée du désert que vous connaissez nécessairement lorsque vous créez un projet. Avant de rejoindre Ashoka, j'avais créé une organisation qui s'appelle Sports sans frontières. Et je peux vous assurer que les 2-3 premières années, lorsque vous êtes sur un projet qui est radicalement innovant, lorsque vous avez une belle approche d'une problématique de société, on met du temps à vous faire confiance. Et l'innovation fait toujours un petit peu peur. Et donc vous avez 2-3 ans extrêmement critiques qui peuvent voir quelque part la mort de votre projet parce que vous n'avez pas trouvé les soutiens nécessaires, vous n'avez pas trouvé l'argent nécessaire, les partenaires et ceux qui vont décider de vous accompagner dans la durée. Et donc la mission d'Ashoka, quelque part, c'est de repérer ces projets-là à ce stade de développement et de se dire comment pourrions-nous sécuriser le lancement de tel ou tel projet. On s'est rendu compte très très rapidement que finalement ce qui faisait défaut, c'était pas forcément l'argent pour lancer le projet en soi, c'est souvent l'argent pour sécuriser le porteur du projet. Vous savez, alors vous avez plein de personnes qui travaillent, qui s'occupent de projets associatifs extraordinaires le soir et le week-end, qui ont la tentation extrêmement forte de basculer un jour et de se lancer corps et âme dans ce projet-là à temps plein, mais qui ne peuvent pas le faire parce que voilà, ils n'ont pas de quoi se payer un salaire décent chaque mois, ils sont en charge de famille, etc. Et du coup, vous avez plein de projets qui ne voient jamais le jour. Ashoka a décidé de remédier quelque part à ce problème-là en finançant non pas le projet, mais le porteur du projet pendant 3 ans, en lui amenant un certain nombre de conseils professionnels de type juridique, vous le disiez, de type comptabilité, de type stratégie aussi. Et donc, il est nécessaire de trouver de nouvelles approches qui soient en même temps complètement pérennes. Et quelque part, Ashoka est dans ce sens une sorte de capital risqueur, mais complètement philanthropique.
Certes, ce n'est pas une découverte cette fois, car ils ont cette année 20 ans d'existence. Les Restos du Cœur, géniale invention de Coluche, ont lancé en début de semaine leur campagne d'hiver sur toute la France, fort des dons de leurs partenaires et d'une véritable armée de quelques 45 000 bénévoles. Et ils ne sont pas de trop, car depuis 20 ans, le problème est toujours le même, la pauvreté s'étend. Olivier Berthe, le président national des Restos du Cœur, ne voit aucune embellie à l'horizon.
Loin de l'embellie, hein. Nous sommes au contraire à l'aggravation permanente. Il y a 20 ans, quand Coluche a lancé les Restaurants du Cœur en France, il y avait 60 000 personnes qui étaient aidées et nous avons distribué 8,5 millions de repas. 20 ans après, l'an dernier, nous avons distribué 67 millions de repas à 630 000 personnes, c'est-à-dire quasiment multiplier les chiffres par 10. Ça, c'est une situation déjà de volume. En même temps, on a constaté des gens de plus en plus fragiles, de plus en plus exclus, des jeunes que l'on ne voyait pas il y a 20 ans, des personnes âgées, et avec le jeu des solidarités familiales qui ne fonctionne plus. On a vu apparaître également énormément de mamans seules avec enfants, ce qu'on appelle familles monoparentales, mais la réalité, c'est des mamans seules qui élèvent 1, 2, 3 enfants, et puis également des travailleurs pauvres. Donc non seulement plus de personnes à aider, mais des personnes dans des situations de plus en plus précaires, de plus en plus difficiles. Ça, c'est le constat sur 20 ans. Et pour la saison qui s'ouvre, malheureusement, nous ne pouvons que craindre d'avoir à faire face à la même difficulté, puisque les premières tendances d'inscription ne nous rendent pas optimistes et que la situation de la pauvreté et de la précarité en France sont loin de s'être améliorée. Donc oui, nous craignons devoir faire face à un afflux au moins équivalent à celui de l'an dernier de personnes à aider.
Alors, on vous fait parfois le reproche à vous, Restos du Cœur et autres organisations du même acabit de finalement venir pallier aux carences de l'État, ou en tout cas de faire partie d'un système, à savoir le monde globalisé et la mondialisation, et finalement le libéralisme qui fait de plus en plus de pauvres, et donc quelque part il faudrait accepter que finalement bien ces exclus soient pris en charge par des organismes comme le vôtre, et qu'il n'y a rien d'autre à faire finalement que d'aider ceux qui sont en marge.
C'est complètement le contraire que nous faisons. Et bien entendu, nous sommes là pour tous les jours refuser ce constat, celui que vous venez de faire. Le contraire que nous faisons, parce qu'au-delà de l'aide alimentaire, au Resto du Cœur, on fait de l'aide à la personne, de l'aide à l'insertion, et depuis des années, on aide les gens, bien entendu, par un colis de dépannage, mais au-delà, on essaye, par la recherche de logement, la recherche d'emploi, de trouver des solutions durables. Donc, nous ne sommes pas là comme alibi au pouvoir public, mais nous sommes bien là pour tendre une main secourable à les gens qui ont trébuché et qui ont besoin à un moment donné d'un coup de main. Et les bénévoles sont là pour l'accueil, l'écoute et donner ce coup de main en toute simplicité, en toute indépendance et véritablement sans juger les personnes qu'elles aident. En revanche, les solutions durables d'emploi, les solutions durables de logement, les solutions durables d'accès aux soins pour tous, là ce sont aux politiques publiques de les mettre en œuvre et pas aux associations. Et là où vous avez raison, c'est que si notre coup de main ne se transforme pas à un moment donné par une prise à bras-le-corps, à bras-le-cœur de ces problèmes par les pouvoirs publics, que ce soit l'Europe, que ce soit l'État français ou que ce soit les collectivités locales françaises, eh bien véritablement c'est que nous n'aurions pas été suffisamment haut et fort à crier « ça suffit, donner des solutions durables à ces gens, à ces 4 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France ».
Alors vous avez évoqué le travail des bénévoles, je crois qu'actuellement ils ne sont pas moins de 45 000. On célébrait ce lundi 5 décembre la journée justement du travail bénévole. Est-ce que finalement c'est cette masse de bénévoles qui font la force d'une organisation comme les Restos du Cœur?
Bien sûr, parce que à la fois c'est ce qui fait la personnalité de l'association. Les gens se confient plus facilement à des bénévoles qui ne vont pas les juger, et ça c'est extrêmement important. Donc c'est la personnalité de l'association, c'est ce qui en fait son ouverture et son accueil et son écoute. C'est aussi ce qui permet à cette association de tourner, d'être présent dans plus de 2000 endroits en France pour accueillir au quotidien. Mais c'est aussi ce qui permet de travailler gratuitement, si vous voulez, de donner un peu de son temps, donc d'économiser le plus possible les frais généraux et de faire en sorte que l'argent qu'on nous donne, l'argent des donateurs, l'argent du public, soit réutilisé à plus de 90% vers ceux qui en ont besoin et à moins de 10% vers les frais généraux. ce qui génère d'ailleurs un fort taux de confiance et d'adhésion de la part du public, puisque l'Association des Restaurants du Cœur est l'association française dans laquelle l'opinion publique a le plus confiance, avec 85% de confiance. C'est bien parce qu'ils savent que nous économisons les frais généraux et que grâce au travail bénévole, nous utilisons au mieux chaque euro versé.
Fin de ce magazine. Merci à Olivier Berthe, Arnaud Moureau et Richard Verly. Merci à vous et à la semaine prochaine. We'll be right back.